Adieu Jack par Jack London. Hawaï est un endroit des plus curieux. Socialement parlant, tout y est sens dessus-dessous, non que les rapports y manquent de correction. Il pêcherait plutôt par excès de courtoisie, il n'empêche que les valeurs sont pour ainsi dire renversées. La société la plus fermée est constituée par le milieu des missions. On apprend non sans stupéfaction qu'à Hawaï, l'humble missionnaire voué au martyr occupe la place d'honneur au banquet de la plutocratie, c'est pourtant la stricte vérité. Les modestes citoyens de la Nouvelle-Angleterre, apparus dans la troisième décade du XIXe siècle, nourrissaient le sublime dessein d'enseigner aux Kanaks la vraie religion, le culte du Dieu seul et unique, authentique et incontestable. Ils y réussirent et s'entendirent si bien à civiliser les indigènes qu'au bout de deux ou trois générations, la race autochtone était à peu près éteinte. Ce fut là le fruit de la semence de l'Évangile. Quant à la graine des missionnaires, en l'espèce leurs fils et leurs petits-fils, elle donna, comme récolte, la possession des îles elles-mêmes, de la terre, des ports, de l'emplacement des villes et des plantations de canne à sucre. Le missionnaire venu afin de distribuer le pain de vie s'installa sur place pour baffrer tout entier le festin des païens. Mais je ne veux pas m'étendre sur ces étrangetés d'Hawaï. Malheureusement, on ne peut parler de ce pays et passer sous silence les missionnaires. Ainsi, Jack Kersdale, l'homme dont je désire vous entretenir, promenait d'une famille de missionnaires, du moins par sa grand-mère. Son grand-père était le vieux Benjamin Kersdale, un négociant yankee qui, autant jadis, échafauda une fortune d'un million en vendant du mauvais whisky et du tourboyau de gin. Encore une drôle d'affaire. À cette époque-là, les missionnaires et les marchands ne pouvaient se sentir. Leurs intérêts s'opposaient, n'est-ce pas? Mais leurs descendants arrangèrent les choses en se mariant entre eux et en se partageant l'île. À Hawaï, la vie est une véritable chanson, ainsi que Stoddard l'a décrite dans son Hawaii Noi. La vie est comme une musique dont le destin prolonge ou redouble l'appel. Chaque île est un verset magique du chant que forme l'archipel. Il ne se trompait point. Ici, la chair est douce. Les femmes sont des Junons que le soleil muré et les hommes des Apollons de bronze. Ils s'adonnent au chant, à la danse. Leur joyeux son des fleurs, de fleurs ils se couronnent. Et en dehors de l'austère monde des missions, les Blancs s'abandonnent au climat et au soleil, et quelle que soit l'importance de leurs occupations, ils se mêlent aux réjouissances indigènes, arborant des fleurs derrière les oreilles ou piquées dans leurs cheveux. Tel était Jack Kersdale. Jamais je n'avais rencontré d'individu plus affairé que lui. Plusieurs fois millionnaire, roi du sucre, planteur de café, pionnier du caoutchouc, éleveur de bétail, il fondait 3 sur 4 des nouvelles entreprises de la colonie. Homme du monde, clubman, propriétaire d'un yacht, célibataire et avec cela, doué d'une séduction qui le faisait rechercher des mamans en possession de filles à marier. Par parenthèse, il avait terminé ses études à Yale, et avait la tête farcie de statistiques et de renseignements scientifiques sur Hawaii Noi, plus que n'importe quel habitant des îles. Il abattait une somme prodigieuse de travail tout en chantant, en dansant, et en se couronnant de fleurs avec autant d'entrain que les oisifs. Il ne manquait pas de cran. À 2 reprises, il s'était battu en duel, pour raisons politiques, quand il n'était encore qu'un jeune néophyte essayant ses premiers pas dans la vie publique. Le fait est qu'il joua un rôle courageux et des plus honorables dans la dernière révolution lors du renversement de la dynastie autochtone. Il n'avait pas alors certainement dépassé sa 16e année. J'essaie de faire ressortir qu'il n'avait rien d'un poltron, afin que vous puissiez apprécier à leur juste valeur les événements qui se déroulent par la suite. Je l'ai vu, dans le parc de dressage du ranch d'Alcacala, maîtriser une bête de 4 ans qui bravait depuis 2 années les meilleurs gardiens du bétail de Fontemski. Je vais vous conter une autre de ses prouesses. Nous étions descendus à Kona, ou plutôt montés, car les gens de Kona dédaignent d'habiter au-dessous de 1000 pieds d'altitude. La société se trouvait réunie sur le lanai de la villa du docteur Goodhue. Je conversais avec Dottie Fairchild quand l'incident se produisit. Un grand scolopendre, il avait 7 pouces de long, nous le mesurâmes ensuite, tomba du plafond en plein sur la tête de la jeune fille. J'en conviens, je me trouvais comme paralysé d'horreur, incapable de faire un geste et mon cerveau me refusait tout service. À 2 pas de moi, je voyais la hideuse bête venimeuse se tordre dans les cheveux de Dottie. À tout instant, il menaçait de choir sur ses épaules nues. Nous sortions à peine de table. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en ébauchant le geste de porter la main à sa tête. « Ne bougez pas » m'écriai-je, « ne bougez pas !»« Mais qu'y a-t-il » insista-t-elle, effrayée en lisant la terreur dans mes yeux et sur mes lèvres balbutiantes. Le ton de ma voix attira l'attention de Kersdale. Il tourna la tête négligemment de notre côté, d'un coup d'œil se rendit compte de la situation et s'approcha, mais sans se presser. « Ne remuez pas, je vous prie, Dottie, » prononça-t-il avec calme. Sans plus d'hésitation que de hâte, Jack allait droit au but. « Permettez !» D'une main, il saisit l'écharpe de Dottie et l'enroula étroitement autour de ses épaules pour éviter la chute de l'animal dans son corsage. En même temps, il étendait l'autre main, la droite, saisissait l'immonde insecte aussi près que possible de la tête et le tenant serré entre le pouce et l'index, le retirait de la chevelure. On aurait pu voir mieux comme scène d'horreur et d'héroïsme. J'en avais la chair de poule. Le scolopendre, avec ses 18 centimètres de pattes, se convulsait en tous sens, s'agitait, se tortillait, se jetait sur la main de Kersdale et se repliait sur ses doigts. Les griffes labouraient la chair et la lacéraient dans les efforts de la bête pour se dégager. L'homme fut mordu à deux reprises, je le vis de mes propres yeux, encore qu'il affirmait aux dames qu'il n'avait aucune blessure. Puis il lança l'animal sur le sentier et le piétina dans le gravier. Mais je vis Jack Kersdale 5 minutes après dans la salle d'opération et le docteur Goodhue débridait ses plaies et y injectait du permanganate de potasse. Le lendemain, il avait le bras comme un petit tonneau et il fallut 3 semaines pour que l'enflure disparût. Certains détails m'éloignent quelque peu de mon récit, mais je ne pouvais me dispenser d'en parler afin de démontrer que Jack Kersdale n'était rien moins qu'un lâche. Il possédait un cran inégalable, jamais il ne s'émouvait et jamais le sourire ne quittait ses lèvres. Il avait plongé le pouce et l'index dans les cheveux de Dottie Fairchild avec autant d'insouciance que s'il se fût agi d'une boîte d'amandes salées. Et pourtant cet homme, j'étais destiné à le voir en proie à une terreur 1000 fois plus abjecte que celle que j'avais éprouvée moi-même devant cette horreur accrochée à la chevelure de Dottie Fairchild, se balançant au-dessus de ses yeux et de l'échancrure de son corsage. Je m'intéressais à la lèpre et sur cette question comme sur toute autre relative aux îles, Kersdale possédait des connaissances encyclopédiques. De fait, il se passionnait à cette étude. Il défendait ardemment la colonie de Molokai, centre de relégation pour tous les lépreux des îles. Dans la population indigène, on parlait beaucoup, et avec une rancœur attisée par les démagogues, des cruautés perpétrées à Molokai aux hommes et femmes arrachés à leurs amis et à leurs proches, se trouvaient par surcroît contraints à vivre jusqu'à leur mort comme des prisonniers à perpétuité. Pas de sursis à l'exécution, pas de commutation à la peine. La phrase « abandonner ici toute espérance » eût été à sa place à l'entrée de Molokai. « Je vous affirme qu'ils y coulent de rejour, » répétait Kersdale. « Leur situation est infiniment meilleure que celle de leurs amis et parents de l'extérieur qui n'ont plus rien de commun avec eux. Légende que les horreurs de Molokai. Je voudrais vous emmener dans n'importe quel hôpital ou n'importe quel quartier pauvre dans les capitales du monde et vous y montrer des horreurs 1000 fois plus réelles. La mort vivante, les êtres qui furent des hommes, pah ! Je souhaiterais qu'il vous fût possible de voir ces morts vivants aux courses de chevaux, le 4 juillet. Plusieurs possèdent un bateau, l'un d'eux a même un canot à pétrole. Tout leur souci consiste à se donner du bon temps. Nourriture, logement, vêtements, soins médicaux, ils ont droit à tout. Ils sont les pupilles du territoire. Le climat est chez eux bien plus agréable que celui de Honolulu et on découvre des paysages splendides. Pour ma part, j'accepterais volontiers de passer le restant de mes jours en un lieu aussi charmant. » Ainsi discourait Kersdale sur le bonheur des lépreux. Lui-même ne craignait pas la lèpre. Il se plaisait à le déclarer et s'empressait d'ajouter qu'il n'existait pas une chance sur 1 million de la contracter, pour lui ou tout autre blanc. Pourtant, il avoua par la suite qu'un de ses camarades d'école, Alfred Starter, atteint de cette maladie, mourut à Molokai. Autrefois, vous n'ignorez pas, expliquait-il, on ne connaissait pas le vrai moyen de déceler la lèpre. Un bobo inhabituel ou anormal suffisait pour envoyer son homme à Molokai. En conséquence, on en expédiait à la douzaine qui n'était pas plus lépreux que vous ou moi. Mais on ne commet plus ces erreurs. Les méthodes du service de santé sont maintenant infaillibles. Le plus drôle, c'est que lors de leur découverte, on les appliqua immédiatement à Molokai et on y trouva quantité d'internés non lépreux. On les renvoya immédiatement dans leur foyer. Enchantés de partir, Ils gémissaient plus amèrement à l'idée de quitter la colonie qu'ils ne l'avaient fait à leur départ de Nolulu. Plusieurs refusèrent de s'en aller et il fallut, à la lettre, les y contraindre. L'un d'eux épousa même une lépreuse au dernier stade du mal, puis adressa à la direction de l'île des suppliques émouvantes dans lesquelles il protestait contre son expulsion, alléguant que nul autre que lui n'était capable de prendre soin de sa pauvre femme. « Et quelle est donc cette méthode infaillible ?» lui demandai-je. « L'analyse bactériologique. Il n'y a pas à sortir de là. Le docteur Hervé, notre spécialiste, comme vous savez, a été le premier à la pratiquer ici. C'est un véritable sorcier. Il en connaît sur la lèpre plus qu'aucun autre au monde, et si jamais on en découvre un jour le remède, ce sera grâce à lui. Quant à la méthode, c'est la simplicité même. On est parvenu à isoler le bacille de Hansen et à l'étudier. On l'identifie maintenant à première vue. On prélève tout bonnement un morceau d'épiderme sur l'individu suspect et on le soumet à l'analyse bactériologique. Sans aucun symptôme, on peut être envahi de bacille de la lèpre. Alors, avançai-je, vous ou moi, autant que nous sachions, nous en sommes peut-être infestés. Kersdale haussa les épaules en riant. « Qui sait ? La période d'incubation du bacille embrasse cette année. Si vous avez des craintes, allez voir le docteur. Il vous enlèvera un morceau de votre peau et vous serez fixé en un clin d'œil. » Par la suite, il me présenta au docteur Hervé, qui me remplit les poches de rapports et de brochures du service de santé sur la question et m'emmena à Kalaï, le centre de réception d'Honolulu, où les suspects étaient examinés et où l'on gardait les malades reconnus jusqu'à leur envoi à Molokai. Les départs avaient lieu environ une fois par mois. Après avoir fait leurs derniers adieux, les lépreux étaient conduits à bord d'un petit vapeur. Le Nokou est transporté à la léproserie. Une après-midi que je faisais ma correspondance au club, Jack Kersdale me tomba dessus. « Tiens, je vous cherchais justement, » s'écria-t-il en manière de salut. « Je vais vous montrer le côté le plus pénible de la situation. Les lamentations des lépreux à leur départ pour Molokai. » Le Nokou les embarque dans quelques minutes. Mais permettez-moi ce conseil. Ne vous affectez pas le moins du monde. Si réel que sur leur chagrin, ils gémiraient incomparablement plus fort si dans un an le service de santé s'avisait de les retirer de Molokai. Nous avons juste le temps de prendre un whisky and soda. Ma voiture est à la porte. Il nous faudra à peine 5 minutes pour descendre jusqu'au quai. Nous nous mîmes en route. Une quarantaine de pauvres diables s'y trouvaient, accroupis au milieu de nattes, couvertures et paquets variés. Le Noko venait d'arriver et s'amarrait sur une gabarre placée entre le quai et lui. Un certain M. McVeigh, le directeur de la colonie, surveillait l'embarquement. Je lui fus présenté ainsi qu'au Dr George, membre du service de santé que j'avais déjà vu à Cali. Le groupe des lépreux représentait l'image même de la désolation. La plupart montraient des visages effrayants, trop horrible pour que je tente de les décrire. Mais ça et là, je remarquais des gens d'assez bonne mine, sans le moindre stigmate du mal cruel dont ils souffraient. Je discernais, entre autres, une fillette blanche d'une dizaine d'années au plus, aux yeux bleus et à la chevelure d'or. Sa joue, cependant, portait la bouffissure caractéristique. Comme je m'apitoyais sur la situation de cette enfant étrangère isolée parmi les affligés à peau brune. « Je ne sais trop s'il faut la plaindre, » répondit le docteur George. C'est plutôt un bonheur dans sa vie. Elle vient de Canaï. Son père, une véritable brute, la maltraite. Maintenant que le mal s'est déclaré, elle va rejoindre sa mère à la colonie où nous l'avons envoyée pour la 3 ans. Un cas très grave. « Il ne faut pas toujours se fier aux apparences, » expliqua McVeigh. Ainsi, cet homme là-bas, ce solide gaillard, qui semble éclater de santé, sans le moindre symptôme de la maladie. « Eh bien ?» Je sais qu'il est affligé d'un ulcère perforant à un pied et d'un autre à une omoplate. Il n'est pas le seul. Tenez, voyez la main de cette jeune fille, celle qui fume une cigarette. Remarquez ses doigts contractés, c'est la forme anesthésique. Elle affecte les nerfs. Vous auriez beau lui amputer les doigts avec un couteau ébréché ou les lui user avec une râpe à muscade, elle n'en ressentirait aucune douleur physique. Oui, mais cette jolie femme en face de nous, insistai-je, elle n'est sûrement pas atteinte, n'est-ce pas ? Elle est d'une beauté éclatante. « Son cas est lamentable, » répondit McVeigh, en se détournant pour rejoindre Kersdale sur le quai. C'était une créature superbe, une pure polynésienne. Grâce à mes quelques connaissances de la race et de ses différents types, je conclus que cette femme descendait de la plus vieille souche. Elle semblait avoir 23 ou 24 ans. De traits et de proportions admirables, elle commençait à accuser les formes pleines des femmes polynésiennes. Ce fut une stupéfaction pour nous tous, dit le docteur Georges. Elle est venue se dénoncer elle-même. Personne ne soupçonnait rien. Toujours est-il qu'elle avait bel et bien contracté le mal. Nous en fûmes atterrés, je vous l'affirme. Nous sommes parvenus à cacher la vérité aux journaux. Nul en dehors de nous et de sa famille ne sait ce qu'elle est devenue. En fait, si vous interrogiez à son sujet quiconque ne l'eût lu, on vous répondrait que, ma foi, elle voyage quelque part en Europe. C'est à sa prière que nous avons usé de cette discrétion. Pauvre fille, elle a tant de fierté. Mais qui est-elle? Demandai-je. À vous entendre, ce doit être une personne célèbre. Connaissez-vous du moins de réputation Lucie Mokonoui? Lucie Mokonoui, répétai-je, frappé par quelque chose de familier dans l'énoncé de ces deux mots. Je hochai la tête. Il me semble vaguement avoir entendu prononcer ce nom, mais je ne saurais dire en quelles circonstances. Comment? Vous ignorez qui est Lucie Mokonoui? Le rossignol hawaïen? Excusez-moi. Naturellement, vous êtes à Malaïni, et on ne peut s'attendre à ce que vous sachiez tout. Eh bien, Lucie Mokonoui était la femme la plus aimée de Honolulu, et autant dire de tout l'archipel. Était, dites-vous. Et je le confirme, car cette femme est finie. Il haussa les épaules d'un air de pitié. Une douzaine de Haoles, pardon, de Blancs, lui ont donné leur cœur à un moment ou un autre, et je ne me compte pas dans le nombre. Les 12 auxquels je pense étaient des Haoles notables et de haute situation. L'eût-elle désiré? Elle aurait pu épouser le fils du président du tribunal. Vous la trouvez belle, n'est-ce pas? Mais si vous l'entendiez chanter. C'est la plus étonnante cantatrice indigène de l'archipel. Son gosier est de pur argent, et sa voix chaude comme le soleil du midi. Nous adorions cette femme. Elle fit d'abord une tournée en Amérique avec l'orchestre royal d'Hawaï, puis deux voyages pour son propre compte en donnant des concerts. « Ah, j'y suis maintenant, » m'écriai-je. « Je l'ai entendue, il y a 2 ans, à la symphonie de Boston. Ainsi, c'est elle. Je la reconnais. » Une profonde tristesse m'oppressait, que la vie représente peu de choses. De méchantes années, et cette admirable créature, à l'apogée d'un magnifique succès, n'était plus qu'une unité dans un troupeau de lépreux, attendant leur intervenant à Molokai. Les vers de Henley me revinrent à l'esprit. Ces pauvres vieilles plaies, le pauvre vieux raconte. Je pense que la vie n'est qu'erreur et que honte. Je me révoltais devant mon propre avenir. Si cet effroyable destin s'était abattu sur Lucie Mokonoui, de quoi est donc été fait le mien ou celui de mes semblables? Nous sommes de toutes parts guettés par la mort. Je ne me fais aucune illusion sur ce point. Mais se trouver encerclé par la mort vivante, mourir et n'être pas mort, figurer dans ce troupeau d'êtres qui furent naguère des hommes et des femmes, telle cette Lucie Mokonoui. La synthèse de tout ce charme polynésien, par surcroît grand artiste et adoré des hommes. Je crains de n'avoir su dissimuler mon trouble, car le docteur Georges s'empressa de m'assurer qu'on était très heureux à la colonie. Tout de même, l'imagination demeure incapable de concevoir pareille horreur. Il m'était intolérable de regarder la jeune femme. À quelques pas de là, derrière la corde tendue que gardait un policeman, se pressaient les parents et les amis des lépreux. Il leur était interdit d'approcher. Pas d'embrassement, de baiser d'adieu. Des appels s'échangeaient de part et d'autre. Dernier message, dernier mot d'amour, suprême recommandation. Et les regards de ceux que maintenait la corde prenaient une intensité terrible. Pour la dernière fois, ces gens contemplaient le visage des êtres chers, car ceux-ci étaient les morts vivants qu'on emmenait dans le funèbre navire au cimetière de Molokai. Le docteur Georges donna un ordre. Les pitoyables passagers se dressèrent lentement et sous le fardeau de leurs bagages traversèrent en chancelant la gabarre et s'embarquèrent sur le steamer. Convoi mortuaire. Un concert de lamentations s'éleva derrière la corde. Cela vous figeait le sang, vous déchirait le cœur. Je n'avais jamais entendu pareille expression de douleur et j'espère bien ne jamais plus l'entendre. Kersdale et McVeigh, toujours à l'autre extrémité du quai, parlaient avec animation de politique, sans doute, car tous deux s'adonnaient à ce sport spécial. Quand Lucie Mokonoui passa devant moi, je la regardais furtivement. Elle était superbe. Aussi bien elle possédait la beauté que nous appelons classique, elle représentait une de ces fleurs rares que les générations ne voient s'épanouir qu'à de longs intervalles. Et dire qu'entre toutes les femmes, celle-ci était condamnée par le sort à la relégation à Molokai. Avec une allure de reine, elle traversa la gabarre et monta sur le pont découvert où les lépreux, pressés contre la lisse pour voir une dernière fois ceux qu'ils aimaient, gémissaient à leur tour. On jeta les amarres et le noko s'éloigna lentement du quai. Les lamentations reprirent de plus belle. Quelle douleur, quel désespoir! Je prenais, à part moi, la résolution de ne plus jamais me laisser entraîner à assister au départ du noko, lorsque McVeigh et Kersdale revinrent. Celui-ci avait les yeux brillants et ses lèvres ne parvenaient point à dissimuler tout à fait un sourire de contentement. De toute évidence, les questions politiques, objet de la conversation, avaient été tranchées de façon satisfaisante. La corde avait été enlevée, et les parents en larmes occupaient à présent le quai de chaque côté de nous. « Voici sa mère !» me dit tout bas le docteur George en désignant auprès de moi une vieille femme qui vacillait d'avant en arrière et fixait sur le vapeur des yeux voilés de larmes. Je remarquai que Lucie sanglotait aussi. Elle cessa tout à coup et son regard se posa sur Kersdale. Puis elle ouvrit les bras dans ce geste adorable et sensuel d'Olga Neversoul, quand elle veut conquérir un auditoire, et les bras étendus, elle cria « Adieu, Jack, adieu !» Il l'entendit et se tourna vers elle. Jamais homme ne s'est senti écrasé par une telle frayeur. Il chancela, son visage pâlit jusqu'à la racine de ses cheveux et il parut se ratatiner et se dessécher dans ses vêtements. Il leva les miens au ciel et soupira. « Mon Dieu, mon Dieu !» Et par un grand effort, il parvint à se ressaisir. « Adieu, Lucie, adieu » répondit-il. Il demeura sur le quai, agitant la main vers elle, jusqu'à ce que le noko fût à une certaine distance et que les formes alignées le long de la liste furent devenues indistinctes. « Je vous croyais au courant ?» lui dit McVeigh qu'il avait considéré avec intérêt. Qui entre tous aurait pu être mieux renseigné? Je pensais que vous étiez venu exprès pour elle. J'en sais suffisamment à présent, fit Kersdale avec une gravité impressionnante. Où est la voiture? Il s'y rendit rapidement, presque en courant. Il me fallut allonger le pas pour le suivre. Chez le docteur Hervé, dit-il au cocher, aussi vite que possible. Il s'affaissa sur les coussins, essoufflé et haletant. Son visage était encore plus pâle. Sa bouche se pinçait et la sueur perlait sur son front et sur sa lèvre supérieure. Il semblait en proie à une terrible angoisse. « Pour l'amour de Dieu, Martine, faites marcher ses chevaux » s'écria-t-il tout à coup. « Fouettez-les, entendez-vous, tapez dessus !»« Ils nous mettront en contravention, monsieur, » objecta le cocher. « Qu'à cela ne tienne !» répondit Kersdale. « Je paierai l'amende et réglerai votre démêlé avec la police. Tapez dessus, vous dis-je. Bon, plus vite encore !» Et dire que je n'en savais rien, absolument rien, murmura-t-il, s'enfonçant dans son coin et s'épongeant le visage d'une main tremblante. La voiture bondissait, faisait des embardées, et s'inclinait en tournant les coins des rues à une telle allure que toute conversation devenait impossible. Au fait, qu'aurions-nous pu dire? Mais je l'entendais continuellement murmurer, et dire que je n'en savais rien, absolument rien. Ainsi s'achève « Adieu Jack » par Jack London,